Et bonjour à toutes et à tous, comme dirait Hervé Gardette. Bienvenue à La Grande Table, rendez-vous culturel de la mise aux journées sur France Culture. Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre, écrivait Freud dans sa correspondance avec Einstein. L'œuvre de l'immense poète Mahmoud Darwish, qui nous parvient en français grâce aux formidables traductions d'Elias Sambar, en est sans doute l'une des plus belles expressions, lui qui n'a cessé de chanter tout ensemble dans ses poèmes, le politique et la beauté du monde. Mais il est aussi un travail quotidien, un travail acharné pour que la culture prennent le relais des conflits entre les hommes. Ce travail, le Palestinien Abdel Fattah Aboussrour s'en fait le chantre. Il a fondé un centre culturel à Haïda, en Cisjordanie, qui vise à rompre l'enfermement des réfugiés en proposant des activités artistiques variées. Parmi elles, le théâtre. Sa troupe, composée de 10 acteurs de 11 à 49 ans, est actuellement en France pour une vingtaine de représentations de sa dernière pièce. L'occasion pour nous de parler de son travail avec son fondateur et un grand témoin autour des relations entre le poétique et le politique.
Bonjour Abdel Fattah Aboussrour.
Bonjour à tous.
Vous êtes auteur, metteur en scène, fondateur donc du centre Al-Rouad pour la culture et le théâtre, situé dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, ça se situe près de Bethléem. Après C'est la faute au loup, votre précédent spectacle, vous êtes donc en France pour cette tournée de Andala, les dessins de la résistance. Il s'agit donc de votre dernière pièce de théâtre. Vous devriez être rejoint dans quelques minutes, on l'espère, par Elias Sambar, que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Elias Sambar, fondateur de la revue d'études palestiniennes, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, écrivain, son dernier livre c'est le Dictionnaire amoureux de la Palestine, c'était en 2010 chez Plon, traducteur du poète Mahmoud Darwish. Son dernier recueil, le dernier recueil de poèmes de Mahmoud Darwish, Nous choisirons Sophocle, vient de paraître chez Actes Sud. Il regroupe 6 poèmes écrits entre 1977 et 1992.
Alors Andala, c'est une pièce qui a été créée à partir des caricatures de l'artiste Naji Al-Ali qui a été assassiné à Londres en 1980. Qui était-il et quel type de caricature faisait-il, Abdel Fattah Aboussrour?
Merci. Nadjel Ali, c'était la conscience arabe, la conscience palestinienne, la conscience des morales, en fait, et des droits et des valeurs que nous revendiquons comme des êtres humains. Nadjel Ali, c'était un réfugié qui était forcé de son village à Shajara à l'âge de 10 ans et qui est devenu réfugié et qui a commencé à dessiner sur l'étoile de la tente de refuge au camp de Liban. Et puis, petit à petit, il a vu ses concessions continues, ses négociations continues, ses soldes sur les valeurs et les droits des Palestiniens. Et il ne voulait pas être à la dérive, ne pas s'égarer. Donc, il a créé ce petit personnage, Handala, amer comme la colocante, pour lui rappeler toujours, s'il ose un peu tricher avec sa conscience, qu'il est là. Un petit enfant de 10 ans qui ne grandira pas tant que la Palestine n'est pas libre, qui ne tournera pas le visage aux gens, mais il garde toujours le dos aux gens, les mains liées derrière son dos, pour ne pas serrer la main à ceux qui font des négociations et font des soldes sur les valeurs et les droits des Palestiniens, spécialement les réfugiés, bien sûr. Et ces personnages, avec les cheveux en pique, comme un hérisson, comme une arme, en fait, ce choix de cette manière de résistance belle et non violente était son choix de dire « moi, je ne fais pas de compromis. Moi, je suis le réfugié. Je garde toujours les clés rouillées pour ces portes qui existent ou n'existent plus, comme tous les réfugiés palestiniens dispersés dans 50 camps de réfugiés. » Les 19 en Cisjordanie, les 8 à Gaza, 10 en Jordanie, 10 en Syrie, 12 au Liban. Revendiquons notre droit. Et là, ce n'est pas un acte de générosité, ni d'Israël, ni de la communauté internationale, de nous faire revenir dans nos villages et maisons et terres d'origine. Elle ne ménageait personne, ni l'OLP, ni les politiques palestiniennes, ni les politiques arabes, ni les politiques internationaux. Et elle a gardé toujours devant lui son droit. De vivre libre et égal à lui-même, comme un être indépendant, libre, complet avec sa conscience, qu'elle puisse un jour, comme nous, je pense. Et si on parle de ses valeurs, liberté, fraternité, égalité, droits de l'homme, justice, paix, amour, ces valeurs que nous partageons comme des êtres humains, qu'on soit musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou ou athée, quoi qu'on ait. Et ces valeurs ne sont pas élastiques, ça ne change pas dépendant de nouvelles réalités sur les terrains et le dicté de solidaire ou solidaire. c'est l'essence de notre humanité. C'est les valeurs que nous rêvons, j'espère, de laisser à nos enfants et à toutes les générations à venir. Et donc, quand les gens disent « c'est trop compliqué, c'est difficile, la cause palestinienne », on dit « on n'a pas le luxe de désespoir ». Et ce n'est pas un héritage encore qu'on peut être fier à laisser à ses enfants et à toutes les générations à venir. On a droit que nos enfants puissent grandir, puissent créer des miracles dans ce monde, sans penser qu'ils ont besoin d'un grand fusil pour tuer tous les autres, pour se libérer ou faire quoi que ce soit. On a besoin de voir nos enfants vivants. Nous, Palestiniens, on a marre d'enterrer nos enfants. Aucun parent ne met des enfants au monde pour les voir mourir. On veut les voir grandir, tomber amoureux, avoir des enfants, éduquer. Et quand le temps vient, c'est à eux de nous enterrer et marcher dans nos funérailles. Ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. Et donc, ça, dans cet esprit-là aussi, Handala, reste la conscience pour moi, reste la mémoire de ce monde arabe et de l'humanité, en fait, qui me pousse continuellement à utiliser cette belle résistance par le théâtre, par la culture, par l'art, comme un moyen de s'exprimer, raconter son histoire, sa version de son histoire. Et sans qu'il y ait de complicité, essayer de plaire aux autres, leur raconter des parts, mais vraiment retrouver la paix en soi avant de parler de la paix avec les autres. Parce que si on n'a pas la paix en soi, comment peut-on faire la paix avec quiconque? Nous sommes palestiniens, nous sommes sous occupation israélienne depuis 63 ans. Nous subissons cet acte de viol depuis 63 ans. Qu'est-ce qui m'oblige comme palestinien à fermer les yeux et à dire « je m'habitue au viol » Et donc, dans cette démarche-là, revendiquer le droit, contester et protester contre le viol et la violation des droits de l'homme et des valeurs qui nous unissent comme des êtres humains, essayer de m'inquiéter à ce que je vais dire à mes enfants ou vos enfants ou n'importe quels enfants, aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans ou 20 ans, si Allah nous donne la vie, quand elle vient nous regarder en face et dit « qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change? Quel héritage nous avez laissé? Qu'est-ce qu'on va leur dire ?» Nous ne pouvons rien faire, c'était désespérant. Donc dans cet esprit-là, on essaye de garder la mémoire vivante à travers la culture et le théâtre et l'art pour dire que nous vivons, que nos enfants puissent marcher, protester dans la rue, pas en disant « nous mourrons pour que vive la Palestine ou la Syrie ou le Liban ou n'importe quel pays », mais que nous vivons pour que vive la Palestine et notre pays et tout, et que on construit la paix, l'espoir et la vie, et pas la mort.
Et pour porter cette démarche-là, donc Abdel Fattah Aboussrour, vous avez choisi de vous appuyer donc sur cette figure de Naji Alali. J'aimerais qu'on reste encore un instant, parce que c'est vrai qu'on le connaît très mal, voire pas du tout ici en France, caricaturiste. Vous disiez donc au début, il faisait ses dessins sur les toiles de tente des réfugiés. J'imagine qu'ensuite, il a trouvé d'autres moyens de diffusion pour être beaucoup plus vu. Est-ce qu'il y a, vous, des dessins qui vous ont particulièrement marqué?
En fait, quand on regarde ces caricatures, même avec ce recul, on voit comme si c'était dessiné aujourd'hui ou hier. Que les paroles, les figures, les personnages sont là, sont toujours présents, et encore pire. Et qu'elle était tellement prévoyant que même en 64, elle a fait le dessin « Boycott Coca-Cola », par exemple. Et maintenant, il y a un campagne très active sur le BDS, et le boycott des produits israéliens, etc. Et elle, comme je disais, elle ménageait personne. Donc, ces personnages qui font des soldes sur les valeurs, qui négocient, essayent de plaire à Israël, essayent de plaire aux Américains, essayent de plaire à la communauté internationale, et ont transformé, en général, la cause palestinienne, qui est une cause politique, en cause humanitaire. Et on est devenu des assistés, demandant qu'ils n'attendent que la charité internationale. Et pour moi, non, on refuse que notre cause politique soit transformée en cause charitable.
On n'attend pas. On peut aussi négocier sur des questions politiques.
Hein. On peut négocier sur les questions politiques, mais pas sur les valeurs. Pour moi, le sens que l'occupant, c'est l'occupant, peu importe sa religion. Donc pour moi, Israël est un état d'occupation, pas un état juif. Et ce n'est pas le moral juif ou la religion juive qui est en cause, là. C'est l'occupation, comme les nazis, quand ils ont occupé la France, c'était des chrétiens contre chrétiens, mais on ne regardait pas les Allemands comme des chrétiens. On les regardait comme des nazis, comme une force d'occupation.
Si ce n'est qu'en France, c'est extrêmement compliqué de faire cette comparaison avec l'occupation allemande et la calquer sur ce qu'est la situation au Proche-Orient. Mais ça, c'est un débat qu'on aurait peut-être dans d'autres émissions, mais c'est toujours un petit peu compliqué à aborder ces questions-là.
Elias Sambar nous a rejoint. Bienvenue, Elias Sambar, dans notre émission. On parlait de la figure de l'artiste Naji Alali, puisque la pièce de théâtre d'Abdel Fattah Bousrour est adapté des dessins de Naji Alali. Est-ce que c'est une figure que vous connaissez, vous ?
Oui, je l'ai connue à l'époque du Liban, donc avant le départ de l'OLP de Beyrouth, avant les années 82. Et il était déjà extrêmement populaire, puisqu'il a commencé surtout à être connu pendant cette période qu'on appelait la guerre civile libanaise. Ce qui était extrêmement beau dans ses dessins, mis à part qu'il y avait une perspicacité, il était au diapason, si vous voulez, de la réalité quotidienne palestinienne. C'est le petit personnage, d'ailleurs, qui, je crois, donne le
Handala.
Nom, qui est un petit garçon qui est en fait le dessinateur. Et c'est le regard de ce gosse sur le monde, le regard de ce gosse sur ce qui se passait, ce qui lui permettait d'être simultanément dans une grande perspicacité, mais en même temps sous des formes de questionnement apparemment naïfs. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais bien entendu qui comprenait très très bien. Il y avait donc là de l'ironie et beaucoup d'autodérision. Et vous savez, l'autodérision est devenue, du fait de l'exil, du fait des conditions quotidiennes palestiniennes, un des traits permanents de ce qu'on pourrait appeler l'humour palestinien. Il y a toujours cette petite distance. Et puis il y a toujours dans ses dessins une ombre de tristesse. Il y a toujours cette tristesse latente dans le dessin. Mais c'est vrai que ce petit personnage, quasiment au crâne rasé, qui a juste quelques petites pousses de cheveux qui montent, que nous n'avons jamais vu de face dans les dessins, qui est de dos, qui regarde avec le lecteur du journal, hein, qui regarde la scène, et est devenu très vite extrêmement populaire, et jusqu'à la fin tragique à Londres de ce dessinateur des années plus tard, après avoir quitté le Liban où il s'est installé à Londres.
Alors Handala, c'est un des personnages qui est représenté sur scène dans votre pièce de théâtre, Abdel Fattah Bousrour. Il est sur scène avec un autre personnage qui est Naji, que vous incarnez. Vous l'incarnez dès le début, puisqu'on l'entend dès l'introduction. Et on va écouter un extrait. En arabe, vous nous direz ce que dit à ce moment-là Naji.
أنا لست بطلا بحق أنا لست بطلا هم الذين علموني كنت أنظر في عيني ابني خالد وأخاف الإحساس بالهزيمة فكنت أقاوم رسومي ليست للعرض إنها لغة تعبيرية وأراهن على روحي من أجل توظيفها في سبيل قضيتي فليست مهمتي إبراز الإضاءات والإنجازات إن عملي الوحيد هو كشف الألغام أنا شخصياً منحاز لطبقتي منحاز للفقراء وأنا لا أغالط روحي ولا أتملق أحداً الفقراء هم الذين يموتون وهم الذين يسجنون وهم الذين يعانون معاناة حقيقية والمناضل الحقيقي دائم العطاء يأخذ حقه من خلال حقوق الآخرين وليس على حسابهم.
Alors c'est l'introduction qu'on entend là. Naji parle dans l'obscurité, s'adresse au public. Que dit-il, Abdel Fattah Bousrour ?
En fait, c'est vrai mot à lui. Ce n'est pas moi qui l'avais écrit. Elle dit « Je ne suis pas un héros. Vraiment, je ne le suis pas. Ce sont eux qui m'ont instruit. J'ai posé mon regard sur mon fils Khaled. Et pour lui, j'ai repoussé mon sentiment de défaite. J'ai résisté. » Mes dessins ne sont pas destinés à être exposés, c'est un mode d'expression. Et je jure sur mon âme de les employer pour ma cause. Mon objectif n'est pas de me mettre dans la lumière ou de rechercher le succès personnel. Mon rôle est de débusquer le piège. Je suis engagé pour les gens de ma classe sociale, les pauvres. Je ne triche pas avec mon âme et je ne lèche pas les bottes de personne. Notre cause est claire et n'a pas besoin d'aucune clarification. Ce sont les pauvres qui meurent. Ce sont eux qui sont emprisonnés. Ce sont eux qui endurent une souffrance réelle. Le vrai résistant est dans un don permanent. Il prend son droit en se battant pour les droits des autres et non à leurs dépens.
Alors à partir de ces dessins, à partir des mots de Nagy, vous avez donc adapté ces dessins et ces textes pour en faire une pièce de théâtre qui comporte d'autres personnages, hein, de multiples personnages. Une pièce dans laquelle on peut entendre, et on l'entend aussi dans vos mots, Abdel Fattah Aboussrour, comme un cri, un cri de révolte, une colère. Comment avez-vous fait pour garder de la poésie, pour garder de l'humour et pour que ne transparaisse pas, surtout pour un public français, puisqu'aujourd'hui vous êtes en tournée française pour faire connaître ce personnage, pour faire connaître votre pièce, uniquement la politique au sens de peut-être le plus dur du terme, au sens du combat. Comment avez-vous fait pour garder cet esprit poétique qu'on peut lire quand même à travers les mots que vous avez choisi de mettre en scène ?
Je pense que pour montrer aussi l'autre visage de la Palestine, cette culture, cette beauté qui nous enveloppe. On n'est pas des gens qui sont capables seulement de jeter des pierres ou poler des pneus ou autre. Et même l'OLP avait une branche culturelle énorme et sociale. Et la résistance armée composait 20% peut-être de l'effectif de l'OLP à l'époque. Et je pense que c'est pour ça, pour dire que la culture, c'est la culture. Sa beauté, malgré cette monstruosité de la politique, dans ce sens, malgré ces images qu'il a écrites, qu'il a dessinées avec beauté, en fait, j'essayais de décrire ce que je voyais dans ces images. J'ai essayé d'utiliser ce mot quand il avait écrit des mots et d'écrire les dessins. Il y avait plein de poésie, il y avait plein de beauté dans ces dessins. Le personnage de Handala, au début, en fait, bougeait, réagissait. On voyait un peu son visage quand il s'est présenté au début. Mais à un certain moment, quand tellement de négociations, tellement de concessions sur les droits des Palestiniens, alors là, il a dit « je tourne le dos ». Tant que la Palestine n'est pas libre, je ne tournerai pas le dos. Je ne grandirai pas, je reste 10 ans, l'âge où je suis devenu réfugié. Et je pense que Nagy El Ali avait une force dans ce qu'il écrivait. Et même le premier dessin, je pense qu'il a été publié par Ghassan Kanafani, oui, qui est dans son journal. Et après, bon, il est devenu tellement célèbre qu'il essentiellement Al-Kabas et Al-Safir et pas mal de journaux. Et après son séjour au Koweït et les menaces qu'il continuellement recevait s'il n'arrêtait pas de dessiner et de critiquer, et il est parti à Londres où il a finalement été assassiné.
Cette pièce, Abdel Fattah Aboussrour, vous avez donc choisi de la faire tourner en France. Elle est surtitrée. Quel public est-ce que vous aimeriez toucher à travers ce spectacle-là, et qu'est-ce que vous aimeriez que le public se dise en sortant de cette pièce ?
Je pense que c'est orienté pour tout le monde. C'est pour, encore une fois, les images des médias montrent la Palestine moche, violente, et toujours en lutte, et voient le vrai visage de l'occupation ou de l'occupant. Mais cette beauté, cette culture, cette humanité des Palestiniens n'est pas souvent montrée, n'est pas souvent décrit. Et la résistance populaire palestinienne composait plus de 95% de la population, de la résistance palestinienne. Et peut-être 5% des Palestiniens ont porté des armes dans leur vie. Et le reste n'ont jamais porté des armes dans leur vie. Et donc, faire vivre cette humanité et cette beauté de la culture palestinienne pour casser ces stéréotypes montrés dans les médias et montrer cette autre image de la Palestine. C'est orienté pour tout le monde. Et j'espère que les gens qui puissent et qui ont décrit tellement qu'il y a cette poésie dans cette pièce, cette force et cette lumière qui brille de ce personnage, qui garde toujours les morales et la conscience et leur revendication des droits, j'espère qu'ils voient cette autre image de la Palestine et qu'ils disent qu'on n'est pas terroriste quand on résiste l'occupation, mais qu'on a dans notre droit de résister l'occupation. Et moi, mon rêve est que tous ces jeunes puissent grandir en pensant qu'elles peuvent changer de monde comme de potentiels partenaires et non pas comme de potentiels ennemis. Qu'elles vont changer de monde avec leur beauté et leur humanité. Cette belle résistance, pas en pensant que le seul moyen de faire quoi que ce soit, c'est de porter un fusil et tuer tous les autres.
Cette morale, cette conscience du monde et cette conception de la poésie et de la beauté des mots comme outil, plutôt que comme arme même, mais parfois même comme arme, Elias Sambar, c'est évidemment ce que portait Mahmoud Darwish.
Je crois que ce n'était ni une arme ni un outil. C'était simplement le besoin de dire cette réalité profonde qui est celle de son peuple. Et partant de cette réalité de son peuple, l'œuvre de Darwish atteint l'universel. C'est-à-dire c'est l'homme qui, à travers son travail, son inspiration poétique, a porté son peuple de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Et sa poésie est en fait ce voyage, cet itinéraire, où l'on voit très clairement à quel point nous sommes tout simplement humains et rien d'autre, avec une idée que nous sommes égaux à tous les hommes, que de ce fait nous avons droit à ce qu'ont droit tous les hommes, et surtout qu'il y a dans des situations d'exil et de grandes difficultés, qu'il y a également, et Mahmoud nous disait souvent, l'exil finalement n'aura, pour quelques-uns bien sûr, aura été très généreux avec nous, en ce sens que l'exil a permis aussi le dépassement de soi. L'œuvre est fondamentalement une œuvre littéraire. D'ailleurs, quand on disait à Mahmoud qu'il était un poète palestinien, il disait « je suis un poète de Palestine ». Si vous voulez savoir d'où je viens de la Palestine, mais je suis poète tout court. Et ça a pris du temps, vous savez, d'imposer cette distinction. Ça a pris beaucoup de temps, des années, pour que les gens sachent, les lecteurs, et même ceux qui ne le lisaient pas, qu'une poésie n'est pas déterminée par le passeport de son auteur. Elle est tout simplement universelle. Et vous savez, nous sommes en train de parler, en fait, probablement du plus grand poète arabe du siècle dernier. Et quand, dans un très beau poème, d'ailleurs, il dit « Qui suis-je ?» C'est une question que les autres posent. « Moi, je suis ma langue ». Et c'est fondamentalement cela qu'a été l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est un diamant réel en tant que tel. Et c'est une œuvre qui, accessoirement, elle n'a pas été écrite pour cela. Elle a été écrite parce que le poète a eu ce besoin vital de chanter. Mais c'est une œuvre qui, accessoirement, peut montrer également l'incroyable vitalité des Palestiniens. C'est-à-dire un amour de la vie et un amour des hommes. Cela a été une grande œuvre, mais je crois qu'il faut surtout l'aborder, sinon ça serait très injuste vis-à-vis de cet immense travail qu'il nous laisse. Ça serait très injuste de la restreindre à l'espace du conflit. Le conflit est une prison. Il enferme les protagonistes et il vous empêche de vivre, en fait. Même quand vous portez une cause juste, et la cause palestinienne est une cause juste, mais il vous empêche de vivre comme n'importe quel homme. Et souvent, dans des débats que nous avions fait ensemble, où nous disions, vous savez, nous ne pensons pas au conflit israélo-arabe à chaque fois que nous nous réveillons. Il nous arrive de vivre comme n'importe qui, de penser à autre chose, d'avoir d'autres envies. Et je me souviens également d'un entretien au terme duquel le journaliste lui avait dit « Quand est-ce que vous pensez que vous serez vraiment libérés ?» Et Mahmoud avait dit « Quand nous serons libérés de la Palestine. » C'est-à-dire quand nous ne serons... Ce n'est pas un reniement. C'est dire à quel point le conflit a bloqué la vie. Et vous savez, c'est un conflit interminable. Donc c'est dur. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans. Les premiers affrontements ont commencé dans les années 1890. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, des générations entières se sont suivies l'une l'autre dans cet enfermement. Mais ce qui est admirable, c'est que malgré cela, la vie est restée la plus forte. Et cette poésie est une poésie de l'énergie vitale, avant tout.
Et pourtant, Elias Sambar, est-ce que quand on est palestinien et artiste, ou artiste et palestinien, est-ce qu'on peut faire abstraction de ce conflit, de l'histoire contemporaine de ce peuple et de ce pays, et de l'acte fondateur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais pour l'identité palestinienne, qui a été le début de l'exil et la création de l'État d'Israël?
Vous savez, notre terreau n'est pas le conflit. Le conflit empoisonne notre vie. Mais nous ne sommes pas façonnés par le conflit. Nous sommes enfermés dans le conflit. Notre terreau, c'est notre très longue tradition, notre pluralité centenaire, cet aspect très particulier que fut ce qu'on appelait communément la Terre Sainte, mais qui n'est pas du tout une appellation théologique ou religieuse, ou exclusivement théologique et religieuse, mais une terre d'ouverture et une terre dont les enfants ont pendant des siècles, pensaient que tout ce qui s'était passé sur leur terre leur appartenait, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures qui sont passées. Donc c'est un peuple qui pense qu'il est dépositaire de tout ce qui s'est passé sur sa terre. Et là, la terre prend une dimension très très forte. Elle n'est plus simplement un espace de frontières. Elle n'est plus simplement un territoire national, au sens où l'on parle de la géographie des États. Elle est une façon d'être. Et la Palestine a été cela. Et c'est ce qu'elle a pu préserver malgré le conflit. Nous ne sommes pas nés par le conflit, nous ne sommes pas façonnés par le conflit. Nous nous heurtons au conflit, mais nous venons d'ailleurs. Et je crois que l'expérience dont vous parlez aujourd'hui et de multiples autres montrent bien que nous ne sommes pas de là. Nous sommes dans un autre registre. Nous sommes condamnés à un conflit interminable. Quand ce conflit sera terminé, nous n'aurons pas changé. Nous serons encore nous-mêmes les enfants de cette terre.
Abdel Fattah Bousrour, dans le centre culturel que vous avez fondé en 1998, qui propose à la fois des ateliers de photos, de vidéos, un festival de cinéma en plein air, des activités comme une ludothèque mobile pour les enfants et même un programme de sport pour les femmes, qui manifestement est une chose rare là-bas. Est-ce que vous avez aussi des ateliers de lecture et par exemple des ateliers de lecture de poèmes de Mahmoud Darwish? Est-ce que c'est une culture qui continue, qui perdure malgré la mort de cet immense poète qu'il était?
Je pense, chez nous, on ne parle pas de la mort des grands. Et elles restent toujours vivantes avec ce qu'elles ont laissé derrière eux. Et dans cet esprit-là, oui, Mahmoud Darwish est toujours vivant. Et comme Najil Ali d'ailleurs, qui est toujours vivant. Elles avaient détracé... pour faire vivre la Palestine autrement, voir la Palestine autrement. Et avec la bibliothèque qu'on a, on anime des lectures, on anime des activités autour de la poésie et des contes folkloriques palestiniens. D'ailleurs, on a fait aussi le premier festival de contes folkloriques palestiniens pour les documenter aussi, parce qu'on a un héritage d'histoire orale et peu d'histoire documentée. Et je pense quand Elias a fait son livre sur les photos de la Palestine pour montrer que les Palestiniens n'étaient pas des bédouins, mais qu'il y avait une culture, une richesse dans ces Palestiniens, et que ça contredit un peu la propagande des unistes à l'époque. Moi, je suis parmi les chanceux qui étaient éduqués en France. J'ai fait mon DEA et doctorat en génie biologique et médical. Et mon cœur était avec le théâtre, avec la peinture. Et j'ai fini par quitter mes travaux payants pour me consacrer au centre que j'ai fondé en 1998. Parce que je voyais que je peux servir dans la culture beaucoup plus que dans la science, dans un sens, dans mon laboratoire de recherche enfermé. Et je suis rentré en Palestine après 9 ans en France en pensant que la Palestine n'attendait que moi pour la sauver. Et je suis rentré aussi avec cet esprit d'indépendance et d'importance de mon action comme personne, comme Cyrano de Bergerac d'ailleurs, quand elle dit « Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui se convient un tronc et s'en fait un tout air en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit de genoux devient sale, exécuter de tours de souplesse dorsale. Non, merci. Dédier comme tout sur le fond des verres aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil que regardez bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. L'heure même connaît pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, mais tout seul. Et j'ai dit souvent aux gens, mais avec vous ça sera mieux, parce qu'on est tous responsables, on est tous acteurs de changement, et personne n'a le droit de dire je peux rien faire, ou c'est très compliqué. On est tous responsables de cet héritage que nous voulons laisser à nos enfants et à toutes les générations à venir. Et c'est pour ça, quand on a fait cette tournée-là aussi, on a publié un livre de caricatures de Najil Ali en français, parce que ça n'était jamais fait, pour montrer ses dessins, pour le faire connaître aussi avec ses dessins.
Est-ce que vous diriez, Elias Sambar, vous qui avez écrit également un dictionnaire amoureux de la Palestine, oui, et dans lequel vous avez consacré plusieurs pages à la culture palestinienne, oui, que cette culture palestinienne est à part dans la culture arabe? Est-ce, non, qu'elle a une particularité, une singularité?
Non, vous savez, c'est une culture arabe. Et il faut être très clair là-dessus. Cela dit, elle a un timbre de voix particulier. C'est une culture qui est dans la langue arabe, qui partage avec la culture arabe son classicisme, qui a le même imaginaire. Maintenant, il est certain que les vécus arabes, car il y en a beaucoup, ont été façonnés, modelés par les expériences spécifiques de chaque pays. Et il est certain que l'expérience palestinienne est extrêmement particulière, ça c'est certain. Mais je ne dirais pas que la culture est à part. Ça serait presque la condamner à mort que de l'isoler de son tronc magnifique, qui est celui de la langue arabe, celui de la culture arabe. C'est une culture arabe qui résonne de façon palestinienne, tout comme l'égyptienne est une culture arabe qui résonne avec de l'égyptien. Et je ne parle pas uniquement des timbres de voix, hein. Je ne parle pas uniquement de la phonétique de la voix palestinienne, mais les thématiques, bien sûr, sont particulières. Mais nous sortons tous d'un même tronc, qui est celui de cette langue magique, qui est la langue arabe.
Alors cette langue, vous avez essayé de la faire passer en français et avec bonheur, je dois le dire, par vos traductions des poèmes de Mahmoud Darwish. Vous avez sous les yeux le dernier recueil, qui est une anthologie de poèmes extraits de plusieurs recueils de Mahmoud Darwish, écrits entre 1977 et 1992. Est-ce que vous accepteriez, Elias Sambar, de nous en lire quelques vers?
Avec plaisir.
Donc, c'est en français, donc.
Oui, oui. C'est un poème intitulé « Tu portes le fardeau du papillon ». Tu diras non, tu déchireras les mots et le fleuve indolent. Tu annonceras les mauvais jours et disparaîtras sous les ombrages. Non au théâtre du verbe, non aux limites de ce verbe, non à l'impossible. Tu viens dans des villes et tu repars. Tu donnes à l'ombre le nom des villages. Tu mets en garde les pauvres contre la parole de l'écho et des prophètes. Tu pars, pars, et le poème se tient derrière cette mer, derrière le passé. Tu expliques une obsession. Viennent alors les gardiens du vide, impuissants, tombés de la rhétorique et des tambours. Les martyrs viendront à toi des murs de ta dernière parole. Ils se poseront sur toi, diadème de sang, et continueront à planter les pommiers hors de tes souvenirs. Tu en seras fatigué, fatigué. Tu les chasseras, mais ils ne partiront pas. Tu les insulteras, mais ils ne partiront pas. Ils occupent ces temps. Tu fuiras leur bonheur vers un temps qui va par les rues et les saisons.
À la poésie de Mahmoud Darwish par votre voix, Elias Sambar.